Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné la requête que le malfaiteur adressa au Christ lors de la crucifixion. Et nous avons vu dans les Saintes Écritures que le Christ ne lui promit pas de le retrouver le jour même au paradis, contrairement à ce que beaucoup croient. Laissez-moi vous rappeler les paroles du malfaiteur. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. La réponse du Christ a été déformée par une virgule, une ponctuation qui n'existait pas dans le texte original, car l'usage de la ponctuation n'a débuté qu'au IXe siècle. À la lumière de nombreux versets, nous avons vérifié et établi que la réponse de Jésus est bien celle-ci. « Je te le dis aujourd'hui. » Et Jésus sous-entendait par là, « En ce jour où nous allons mourir tous deux, je te confirme que je me souviendrai de toi lorsque je serai venu dans mon règne et tu seras avec moi dans le paradis. » À l'heure où je vous parle, le malfaiteur est toujours dans le séjour des morts. Jésus est le premier-né d'entre les morts et lui seul est ressuscité. L'apôtre Jean le savait et en était convaincu puisqu'il a écrit sous l'inspiration divine « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Ce texte a été écrit 60 ans après la mort de Jésus et 35 ans après la mort de Marie, mère de Jésus. Quand on lui demanda un miracle pour prouver qu'il était bien le Messie annoncé, c'est-à-dire le Fils de David, Jésus répondit que le seul signe qu'il donnerait serait de rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il n'aurait donc pas pu être le jour même de sa mort au paradis avec le malfaiteur. Paul écrit aux chrétiens à Corinthe, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. » Paul ne dit pas que son corps fut enseveli et que son âme monta au paradis. Non, il écrit que Jésus est resté enseveli pendant 3 jours et 3 nuits, selon les Écritures. Il mourut pour nos péchés. Ensuite, 3 jours et 3 nuits plus tard, il ressuscita et revint à la vie. De son côté, l'apôtre Jean nous fournit des détails sur la tombe de Jésus. Les voici. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne n'avait encore été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » C'était donc là le lieu où était le sépulcre de Jésus. Il y était resté pendant 3 jours et 3 nuits, plongé dans le sommeil profond de la mort. Il n'était donc pas aux côtés du malfaiteur après son ensevelissement. En citant le prophète David, Pierre annonce à la foule, « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Les mots « séjour des morts » ici sont traduits du grec « hadès », qui signifie « tombe » ou « sépulcre ». Il n'est pas question ici d'un enfer brûlant, pour lequel d'ailleurs la Bible utilise un autre mot. Jésus n'était nullement au paradis, mais dans le séjour des morts, dans le sépulcre. C'est de ce séjour des morts ou de la tombe qu'il a été ressuscité après 3 jours et 3 nuits passés dans le sein de la terre. Il fut le premier à ressusciter, car Christ doit être en tout le premier. Le malfaiteur non plus n'est pas allé au paradis le jour de sa mort, pas plus qu'il n'y est aujourd'hui. Il est toujours quelque part dans une tombe ou tout simplement dans la poussière de la terre. À cela, certains répondront que son âme est montée au paradis. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Si vous souhaitez recevoir notre étude sur l'âme, sur ce qu'elle est réellement, il vous suffit de nous la demander et nous vous l'enverrons gratuitement et sans engagement de votre part. Le malfaiteur sera-t-il un jour dans le paradis avec le Christ comme celui-ci le lui a promis? Oui, mais avant cela, il devra se conformer aux instructions données par Pierre. Le jour de la Pentecôte, après que Pierre eut longuement parlé de Jésus de Nazareth, de cet homme qui fut crucifié, qui est mort par la main des impies, et que Dieu a ressuscité, que se passa-t-il? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Un peu plus tard, Pierre dira, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Peu de gens connaissent les conditions divines qui sont requises pour obtenir le salut. Ces conditions sont la repentance, la conversion et le baptême d'eau. Se repentir, c'est reconnaître ses fautes. Et la conversion, c'est prendre la décision de changer son mode de vie, de ne plus suivre la voie du péché, qui est celle de la transgression de la loi divine. C'est s'en détourner et accepter de vivre dans l'obéissance à cette loi. Le véritable repentir n'est pas seulement d'avoir des regrets ou de la peine devant les conséquences de ses péchés. L'apôtre Paul décrit exactement la véritable repentance dans sa seconde lettre aux Corinthiens. « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le baptême est-il vraiment nécessaire pour être sauvé? La parole divine est précise à ce sujet. Le mot « baptisé » est traduit du grec « baptizo », qui signifie « immerger, plonger dans ». Quelle différence, me direz-vous, si l'on est baptisé par aspersion, par ablution, ou comme Dieu le demande dans sa parole, par immersion? Examinons les exemples qui sont donnés dans la Bible. Paul écrit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Par conséquent, il ne peut pas y avoir plusieurs façons de baptiser. La seule valable est de mettre en pratique le véritable sens du mot baptême, c'est-à-dire il faut immerger, plonger dans. Pourquoi Jésus, qui était parfait et sans péché, s'est-il fait baptiser par Jean? Tout simplement pour nous donner un exemple à suivre. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui, donc pour être immergé. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Jean-Baptiste a-t-il versé quelques gouttes d'eau seulement sur la tête du Christ, ou l'a-t-il complètement immergé, autrement dit baptisé? La réponse se trouve dans le passage que nous venons de lire. Dès que Jésus eut été baptisé, c'est-à-dire dès qu'il eut été immergé, il sortit de l'eau. D'ailleurs, l'apôtre Jean ajoute, Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup d'eau, et on y venait pour y être baptisé, donc pour être immergé. Lorsque Philippe s'est vu dans l'obligation de baptiser un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, ils continuèrent leur route jusqu'à ce qu'ils trouvèrent de l'eau. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit « Voici de l'eau ». il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Après cela, le récit biblique nous informe qu'ils sortirent de l'eau. Pourquoi descendirent-ils dans l'eau? Parce que le baptême devait être fait par immersion. Le baptême symbolise la mort et l'ensevelissement de celui qui se fait baptiser. Il représente l'ensevelissement du vieil homme dans la tombe liquide, l'ensevelissement de l'homme pécheur qui ensuite sort de l'eau pour repartir en nouveauté de vie. Tous, nous devons, symboliquement parlant, être crucifiés avec Christ. C'est ce que Paul écrit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un individu crucifié prend la décision de ne plus tuer, de ne plus voler, de ne plus commettre d'adultère. Bref, il décide de ne plus transgresser la loi divine. Le baptême d'eau symbolise aussi le pardon de nos péchés. Même si les Écritures révèlent que ce n'est que par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, que nous pouvons être lavés de tous nos péchés. Le malfaiteur sera dans le royaume qui sera établi sur cette terre au retour du Christ. Le malfaiteur reviendra à une vie physique, comme la grande majorité des gens qui n'ont jamais eu l'occasion de faire une alliance avec Dieu de leur vivant. À ce moment-là seulement, il aura la connaissance des lois divines et son mode de vie sera changé pour vivre dorénavant de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il pourra être baptisé, immergé dans cette eau qui représente la tombe et il recevra le don du Saint-Esprit. Il repartira en nouveauté de vie et il abandonnera dans l'eau du baptême l'homme pécheur dont les transgressions lui ont valu la crucifixion. Le Christ se souviendra de lui comme il le souhaitait. Il sera dans le paradis, car là où le trône du Christ se trouvera, les grands changements annoncés se produiront. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En ce même temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaillera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, jusqu'à ce que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. L'homme retrouvera alors les conditions qu'Adam et Ève ont connues. Ce sera le rétablissement de toutes choses. Dieu tient toujours ses promesses, car il est fidèle en toutes choses.